Une émission soutenue financièrement par Jean-Noël, Fabien Aubart, Christine Minetto et Johan Panier. Si vous voulez nous soutenir comme eux, n'hésitez pas à aller sur tipeee.com/eTeachers. Allez, bonne émission. eTeachers,
le podcast des profs numériques. Éducation
numérique.
Actu,
outils, expérimentation,
productivité,
interaction, innovation,
Jeff,
Guillaume,
Seb
et Seb.
Précédemment, dans les épisodes 67, 68 et 69 des Teachers,
je vais vous parler d'un outil en fait, que j'ai découvert complètement au hasard il y a quelques mois, qui s'appelle Classroom Screen. Donc Classroom Screen, un écran vraiment de classe. C'est-à-dire qu'en fait, le concept de ce site, c'est de retrouver sur une page web tout plein de petits outils qu'on utilise assez souvent en tant que prof et qui sont assez faciles à utiliser et à avoir toujours à portée de main. L'interface est très simple, c'est-à-dire qu'il s'agit vraiment d'une page vierge sur laquelle nous allons pouvoir agir et faire apparaître un certain nombre de petits outils, ça serait mieux d'ailleurs. Première chose intéressante, vous pouvez changer la langue de la base des outils. Bon, pour moi, c'est intéressant en tant que prof de langue, puisque bien évidemment, je vais pouvoir mettre tous mes outils en anglais. Et vous avez plusieurs choses. Alors, la possibilité de changer le fond d'écran. Alors, si vous voulez, le fond d'écran, c'est un détail esthétique, mais qui a son importance, parce que je trouve toujours sympa d'avoir un environnement de travail agréable. Alors, on peut pas choisir ce qu'on veut, et je suis en train de vous dire une bêtise, parce que je vois que j'ai un bouton d'upload qui vient d'apparaître, qui n'y était pas il y a quelques temps. Donc, a priori, on peut, en direct, quand je le découvre, c'est super. Oui, c'est bien ça, donc on peut. En tout cas, on peut changer le fond d'écran, c'est ça qui est intéressant, quoi qu'il arrive. Là, je vais choisir un joli fond d'écran avec Westminster, c'est magnifique. Et on arrive aux outils intéressants. Alors, le premier outil intéressant, c'est que vous cliquez ici, vous faites apparaître un sélecteur de noms. Donc, il suffit de copier-coller votre liste d'élèves dans la classe, hein, Paul, Antoine, John et Joe. Très bien, bien sûr, vous l'avez copié-collé. Et choose, vous cliquez et de manière aléatoire, ça choisit quelqu'un. Donc, c'est moins sympa qu'une roue qui tourne ou toutes les animations qui existent dans les sélections au hasard. Mais vous avez cet outil-là. Pour le faire disparaître, il suffit de réappuyer sur le même outil. Une petite calculatrice. Moi, en tant que prof de langue, je vous avoue que je m'en sers peu, mais je sais que certains collègues à qui j'ai montré l'outil ont trouvé ça génial. Un générateur de QR code en direct. C'est-à-dire que là, en direct, vous tapez l'adresse du site que vous voulez donner. Allez, on va aller envoyer vers YouTube. Hop, ça change le QR code et c'est parti. Vos élèves peuvent venir scanner directement au tableau votre QR code. Si vous travaillez en tablette, ça a vraiment un intérêt à la volée certain. Un générateur de dessin. Alors moi, je m'en sers pas trop, mais je pense que si on a un tableau numérique, et ben voilà, hein, c'est facile. Si on a n'importe quel TBI, rapidement, vous pouvez inscrire comme un petit carnet de notes. De dessins avec des formes géométriques plutôt. Alors j'ai dû inverser, hein, pour tracer vraiment des formes déterminées. Donc ça plutôt pour les profs de sciences encore. Du texte très rapidement, pourquoi pas pour quelques traces écrites, des notes. Et puis ce truc qui me plaît beaucoup moi, c'est en fait tout plein de symboles pour ce que j'appelais des modalités de travail. C'est-à-dire moi quand je fais des travaux de groupe ou de travail individuel, c'est parfois utile de pouvoir dire que c'est un travail où on va avoir besoin. Ou c'est un travail qui nécessite tout simplement le silence, ou au contraire qui va nécessiter la coopération, qui va nécessiter le travail de groupe, ou qui va nécessiter d'écouter, ou juste de chuchoter. Bon, c'est pas grand-chose, mais pour moi, c'est très utile dans ce que j'utilise. Voilà, des choses avec des feux rouges, des feux verts, ça peut avoir son utilisation, son intérêt, pardon. Et enfin, surtout, moi j'utilise beaucoup, beaucoup aussi les timers pour donner des temps à mes activités quand ils sont en autonomie. Voilà, donc je ne vais pas vous expliquer à quoi sert un timer. On a aussi une horloge, ça c'est moins intéressant, mais pourquoi pas. En gros, si vous voulez, ce qui m'a plu dans cet outil, c'est qu'on a sur le même, sur ce même espace, on a un petit peu tous les trucs de prof dont on peut se servir rapidement et à portée de main. Moi, j'arrive en classe, je l'ouvre, je le lance, et voilà, j'ai tout en quelques secondes, et c'est vraiment, vraiment très, très utile. Donc, voilà, Classroom Screens, c'est gratos, et puis,
c'est en ligne, ça.
Le coup d'essai. C'est tout en ligne, par contre, c'est obligatoirement, on a besoin d'être connecté à Internet, c'est clair.
Tu l'as essayé avec un TBI, justement?
Ouais, j'ai essayé avec un TBI. Écoute, c'est plutôt le fluide. Hein. Moi, en plus, j'ai un TBI portable. Hein. J'ai une Necker là, de chez iBeam. Donc, c'est pas non plus les trucs les plus précis de la Terre. Et en fait, ça marche très, très bien. Quoi. Ça marche plutôt très bien. Voilà.
Faudra que je teste.
Voilà, bon, c'est un coup de main à prendre. Mais je sais que moi, j'ai toujours besoin, quasi à chaque fois de mes cours, hein, d'un timer, voilà, de petits symboles et puis de choisir des noms, des choses comme ça. On a tout ici, c'est assez pratique. Voilà, voilà, Classroom Screens.
Ok, avec un C.
Avec un C.
Oui, parce que le K arrive.
Et ben voilà.
Oui, tout à fait. C'est pour ça que je disais ça.
Oh, c'est beau cette transition. Donc, alors l'année dernière, j'utilisais Classe Dojo. Cette année, c'est Classroom. Mais à quoi ça sert? Dites-moi un peu. Alors, Classroom, ça se veut être le petit ENT de poche. Bien, bien, je pense que c'est vraiment bien pensé pour le primaire, on va dire. Donc, la présentation, ils vous disent la communication parent-professeur réinventée. Oui, oui, oui. Bon, après, c'est des grands mots pour des petites choses, mais qui sont super pratiques. Et qu'est-ce que ça va faire? En gros, ça met en place un espace privé entre vous et les parents. Qu'est-ce que ça se permet, cet espace? Bon, ben, les trucs classiques, hein, afficher des notifs, que ce soit des notifications images, des notifications texte. Moi, je m'en sers pour les devoirs, par exemple. Hein, pour l'instant, je découvre un peu l'application pour l'instant. Il y a des trucs que je connaissais déjà, il y en a d'autres qui sont pas mal. Donc, après, bien sûr, les parents peuvent nous contacter directement. On peut les contacter directement aussi. On sait, un par un, on peut savoir qui a vu quoi dans les notifications que l'on a faites. Ça, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. On peut même leur demander une signature. Je ne sais pas en quelle mesure la signature est effective, mais on peut demander cette option-là quand on fait une notification. On a des tas d'autres choses du style… on peut faire des publications, on peut programmer des publications, on peut mettre des documents en ligne… On peut également, excusez-moi, je cherche, j'avais pris des notes, mais forcément je ne les ai pas là. On peut, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il y a des vidéos qu'on peut partager, etc. On peut bien sûr contacter directement un parent et lui envoyer des choses. C'est pas mal. Bon, ça fait son petit travail. Alors, moi qui avais utilisé Classe Dojo, là où je suis un petit, ouais, je vais être un peu méchant, c'est moins beau. C'est marrant, Classe Dojo, pour ceux qui ont
Il y a le côté ludique, Classe Dojo.
Ouais. Ouais, mais c'était très graphique. Il y avait les petits personnages, les gamins pouvaient les customiser, les personnaliser, etc. C'était vraiment sympa. Puis en plus, Classe Dojo partait avec l'idée de, attention, on va faire, on va, entre guillemets, pouvoir mettre des points aux élèves selon sur le comportement, sur l'activité, enfin, pouvoir décider de tas de choses. Là, ce n'est pas du tout le propos. Là, on a vraiment une application à pouvoir faire par exemple, ce que je fais, quoi, mettre les devoirs, communiquer avec les parents et basta.
Et tout ce que l'aspect multimédia, là, partage de photos.
C'est ce que je disais, tu peux mettre des photos, des vidéos. Ça, j'ai pas encore essayé. Là, je l'ai mis en place il y a une semaine.
Oui, c'est tout récent. Oui.
Voilà, c'est tout récent. Le truc intéressant, par contre, on ne crée pas de compte pour les élèves. La procédure qu'ils ont choisie, c'est pas l'enseignant qui crée un compte pour les élèves, non, l'enseignant crée une classe. Cette classe possède un code et ce code, on va le fournir aux parents pour pouvoir se connecter avec ça. Ça fait un petit peu bizarre. En fait, je réfléchis sur le truc, savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée, j'arrive pas à me décider. C'est un peu particulier, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, parfait pour les professeurs. Oui, c'est vrai qu'on crée rapidement une classe. Bon, même si moi, J'étais un peu moins réceptif quand ils m'ont demandé mon numéro de téléphone.
Bon. Ah.
C'est moi qui bloque sur certains trucs, ça je sais, mais bon, voilà. Ça a toujours le côté pratique que les parents, on n'a pas besoin de leur donner un mail ou quoi que ce soit d'autre, ils l'ont sur le téléphone. Et pour l'avoir essayé l'année dernière avec la Dojo, c'est vrai qu'ils ont plus tendance à ne pas hésiter à me contacter par là. Alors que si c'est un mail, je ne sais pas pourquoi, ça fait toujours une étape en plus.
Voilà. Et les parents ont adhéré ou non?
Alors écoute, pour actuellement, j'en suis à 12 sur ouais, ça va. J'ai la moitié de la classe, quoi, 50%.
D'accord. Une semaine, c'est bien.
Voilà. En une semaine, sachant que je fais ma réunion dans peu de temps, que je vais leur répéter, leur expliquer ce que ça donne. Franchement, je trouve ça pas mal. Là, par exemple, ce qui est affiché, c'est qu'on peut me contacter pour m'annoncer un retard, une absence, quelque chose de particulier. Ça, j'ai bien aimé.
D'accord, oui, c'est pas mal. Hein.
Voilà, ça facilite la chose, donc j'espère avoir des retours par rapport à ça. Est-ce qu'il y a sur les échos? Voilà, après, c'est des trucs classiques. Alors, c'est entre le. Voilà, c'est un petit ENT, donc vous pouvez avoir des tas de choses. Par rapport à classe. Oui.
C'est un service payant ou gratuit, tu n'as pas dit?
Ah, ben voilà, ça, je le garde.
Ah, pardon. Bon,
mais
c'est
pour la fin, mais je vais y répondre tout de suite. En fait, pour l'instant, c'est gratuit de mon côté et du côté des parents. Mais pour avoir vu leur compte Twitter, ils envisagent quand même de le faire passer payant.
Oui.
Parents, via un service de d'abonnement mensuel.
D'accord. Okay.
Mais enfin bon, j'ai déjà prévenu les parents. Par contre, ce qu'ils envisagent de faire, c'est de faire passer l'application en payant et de garder l'accès web gratuit.
D'accord, c'est juste l'application et c'est les parents qui paieraient. Bien, c'est bizarre comme business.
Et c'est les parents qui paieraient. Enfin bon, ils sont en train un peu de réfléchir à leur business là. C'est une française qui s'est lancée là-dedans il y a peu. Donc tu sens qu'ils se cherchent un peu. Et d'ailleurs, je dirais, ça se sent quand même qu'ils se cherchent parce que l'application n'est pas encore super stable comme pouvait l'être Classe Dojo par exemple.
Oui, bien sûr.
Fois je la lance, quand je reviens dessus, elle plante et il faut la relancer. Bon, c'est pas une catastrophe, hein. ça plante pas.
D'accord.
Et tu n'as pas de parents qui sont complètement réticents sur ces outils?
Alors, ça se pose, si tu veux, la question ne se pose pas avec moi, c'est parce que pour l'instant, je me place dans l'expérimentation, etc. Et j'ai déjà prévenu, je continuerai à faire des communications papier, etc. Et ceux qui sont super réticents, parce qu'on a finalement, on en a toujours, ils n'auront pas ce que je ne partagerai que là-dessus, c'est-à-dire les productions communes, c'est ce genre de choses, je vais m'amuser à les coller dans un cahier de liaison quelconque. Donc là, les parents réticents, ils auront l'essentiel, mais moins. Mais j'ai pas eu encore ma réunion. Donc,
Oui, et puis il n'y a aucune obligation des parents, quoi. Non, moi je sais que
exactement.
En utilisant la Classe Dojo, je leur dis bien qu'il n'y a aucune obligation, quoi. Très bien.
En tout cas, ouais, c'est sympa de voir que ça existe. Moi, j'utilisais un peu Classe Dojo. J'ai eu des soucis avec des parents, des histoires toujours de données, de choses comme ça, là, pas forcément justifiées. Donc,
voilà. Si tu veux, ce qui m'a fait franchir le pas, c'est que société française, donc ils ont les données sont stockées en Europe, je crois, mais bon, avec les caractéristiques de sécurité demandées.
Bien sûr.
Oui, tu as raison en plus là-dessus.
C'est chouette. Ouf.
Voilà, je vous ferai un petit retour là-dessus. Si,
Oui, ce sera ton fil rouge de l'année, peut-être, non?
Moi, j'en ai d'autres.
Ok, merci. Alors, je vais continuer. Je viens de changer un petit peu les notes de l'émission, Jeff, t'inquiète pas.
Je change direct les notes de l'émission, il est trop fort.
Parce que ça me plaisait pas ce que j'avais prévu. Et voilà, je voulais vous parler, en fait, bon, c'est quelque chose qui va plus être réservé aux profs de langue et encore, voilà, de quelque chose qui, en tant que prof de langue, pourrait paraître sacrilège, blasphématoire. Je vais vous parler d'un traducteur. Quand on est prof de langue, c'est quand même le gros problème aujourd'hui de travailler avec les traducteurs pour la simple et bonne raison que ce qui revient de plus en plus dans la bouche des enfants, et c'est pas complètement faux quand ils sont pas passionnés par les langues, c'est pourquoi J'ai des cours de langue, sachant qu'aujourd'hui, je peux taper, copier-coller du texte et le faire traduire, et je peux même le faire à la voix, puisqu'il suffit de parler dans n'importe quelle application de traduction live. Ça, non seulement il vous reconnaît, mais il traduit en direct dans l'autre langue. C'est quand même assez bluffant, hein, ça, ce genre d'application, ça existe.
Ouais, ça s'est drôlement amélioré en plus. Hein.
Et ça s'est drôlement amélioré. Moi, j'ai eu l'occasion de le tester dans un pays où je pouvais vraiment rien utiliser de mes connaissances européennes puisque c'était la Chine et c'est hallucinant. Il y a toujours plein d'erreurs, il y a plein de choses, mais pour les besoins basiques, ça fonctionne très très bien. Donc en fait, c'est vrai que c'est un vrai problème puisque comment faire? Vous demandez n'importe quel exercice de compréhension de l'écrit à la maison, les élèves, le premier truc qu'ils font, c'est d'aller utiliser des outils en ligne, ce à quoi je suis pas du tout opposé, hein, parce que les dictionnaires en ligne, je les utilise personnellement à partir du moment, comme tout dictionnaire, de toute façon, où on sait les utiliser, lire les différentes entrées, etc., etc. Ce que sont pas toujours, ce qui n'est pas toujours facilement fait par nos élèves. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils vont tous systématiquement sur Google Traduction. Vous avez beau leur parler de lingui, de reverse context, de base de données qui vont vraiment chercher des occurrences dans de la littérature, enfin en tout cas dans des occurrences langagières existantes, sur des textes existants, donc qui vous produisent une langue authentique, mais pas des, justement une traduction mot à mot, ils passent forcément par là, puisque c'est le leader, et que quand on tape traduction sur un moteur de recherche, c'est forcément Google Traduction qui tombe en premier. Et bien en fait, vient de sortir un outil, moi qui m'a bluffé, qui s'appelle DeepL, donc Deep comme profond en anglais, plus un grand L, D2EPL.com. Vous trouverez ça dans les notes. Et c'est un traducteur qui se veut de bonne qualité, si vous voulez. Donc leur pitch, en fait, c'est ça. Hein, c'est vraiment, j'ai partagé l'écran, c'est clairement de dire que c'est... qu'ils ont dépassé tous les traducteurs des mastodontes de Google, de Facebook, de ce genre de choses, et qu'ils travaillent en fait, je ne sais pas exactement, ils ne disent pas vraiment comment ils développent leur truc, mais c'est quand même une approche intéressante et la traduction est bien meilleure. Par exemple, là, j'ai pris complètement au hasard un texte issu d'un journal anglais, et rien que si vous voulez que la formulation française... Bon, voilà, la fédération policière a qualifié Theresa May de menteuse après qu'elle eût affirmé que certains policiers avaient bénéficié d'une augmentation blablabla.
Ouais, c'est vraiment, ouais.
Rien que ce subjonctif-là, si vous voulez, n'importe quelle Google Traduction, vous n'aurez pas traduit ça, puisqu'en anglais, on a « after she claimed », on aurait eu une traduction de prétérite de base, point barre, quoi. Sur la sémantique et sur la détermination, la qualité du nom, là, la fédération policière, bon voilà, Police Federation, ça c'est clairement des choses qui sont dans chaque pays différentes, ça relève vraiment de l'idiomatisme. Oui. Mais ce qui est drôle, c'est que vous cliquez sur le mot, il vous propose en plus d'autres possibilités. Et donc c'est une des fonctions du traducteur, c'est-à-dire que je pense que si des personnes trouvent que c'est pas terrible, ils vont choisir un autre mot qui est proposé et le logiciel enregistre, bien évidemment. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'il s'améliore. Donc, bon, voilà, sur la traduction des noms, c'est pas toujours évident parce qu'il y a le contexte, parce qu'il y a différentes occurrences possibles, mais sur la grammaire notamment, c'est quand même assez hallucinant. Et bon, l'interface est très sobre, tout ça, mais c'est vraiment bien fait. Voilà. Donc, bon, c'est à la fois. Pour un prof de langue comme moi.
Bah oui, j'allais dire, qu'est-ce que t'en fais?
C'est à la fois génial, quelque part, de voir qu'on s'améliore comme ça. Enfin, un prof de langue, on va dire, qui est intéressé par la technologie. Je sais qu'il y a un paquet d'amis qui hurleraient contre ça. Et à la fois un peu flippant, quoi, de se dire que, voilà, ça s'améliore et que finalement, on n'aura peut-être plus besoin d'apprendre les langues pour pouvoir communiquer. Enfin, c'est déjà un peu le cas, vous allez me dire, mais je veux dire, de vraiment bien communiquer. Il y a quand même une barre entre communiquer pour. Le minimum pour parler, se débrouiller dans un pays et pas mourir, si vous voulez, et parler une langue. On est bien d'accord là-dessus.
Bien sûr.
Les personnes qui disent « je parle l'anglais », oui, d'accord, tu discutes, quoi. Tu le café du commerce. C'est pas tout à fait la même chose, on est bien d'accord. Bon, voilà. C'est, en tout cas, ce qu'on peut en faire, c'est que des apprenants leur montrer qu'on peut utiliser ces outils-là pour les aider à apprendre une langue et pas forcément comme premier recours, mais c'est vrai que c'est un défi qui est... important pour nous, quoi. Voilà.
Putain, on va avoir des tonnes de commentaires, à mon avis.
Non, pas
allez-y, les profs de langue, allez-y.
C'est pas du tout. Alors, moi, j'ai testé qu'en anglais français, en plus. Et je pense qu'il y a encore, bien sûr, des limites. Mais en fait, le fait, moi, je le vois plutôt pour utiliser comme, OK, ben, vous voulez faire ça, allez-y, traduisez, utilisez. Mais dans ce cas-là, améliorer la traduction, quoi. Qu'est-ce qui ne va pas encore, comment et pourquoi, et là ça va faire réfléchir les élèves sur la structure et sur la langue, quoi. Et dans les deux sens, en fait. Et dans les deux sens.
C'est le même principe que l'application qui fait en ce moment fureur de, on prend un problème mathématique et ça le résout avec toutes les. Avec toutes les étapes de mathématiques, vous avez entendu parler de cette application.
J'en ai entendu parler, j'en ai pas encore parlé à ma chère et tendre épouse qui est enseignante de maths.
Je sais plus le nom exact, hein, mais c'est impressionnant.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Non, non, mais c'est une autre vraie question. Hein. Pour les langues aussi, on sait aussi cette application où on prend en photo un texte et il vous la traduit, mais c'est hallucinant, il vous garde toute la mise en page en fait. C'est-à-dire, c'est même pas, il scanne, c'est dans la mise en page, il le traduit. Et moi, j'ai fait ça sur un menu, quoi. C'est hallucinant. C'est une sorte de réalité augmentée, en fait, hein, quelque part.
Ouais, et, de l'intelligence artificielle, d'ailleurs.
Et bon, voilà. En tout cas, ça s'améliore aussi de ce point de vue-là. Bon, voilà, c'est une réflexion à avoir. Hein. Je ne dis pas qu'il faut en parler à tout va quand on enseigne, mais en tout cas, ça existe.
Je ne sais plus où j'en suis. Oui, un petit retour sur l'émission 67. On a un petit retour de Olivier Rebier, je ne sais pas comment ça se dit. Rebière, je pense, qui me demande si on avait essayé Kahoot. Et on peut lui répondre, on en avait parlé dans un e-teacher, je ne sais plus quel numéro, mais c'est quelque chose que moi j'utilise assez souvent avec mes élèves. Donc en gros, c'est un petit boîtier de vote très ludifié, où on fait ça en classe, où le téléphone ou l'appareil sert de boîtier de vote. Et c'est vrai que j'utilise de temps en temps, moi, pour après une leçon, pour voir un petit peu si les élèves ont compris. Donc oui, on connaît Kahoot et c'est quelque chose que j'apprécie en tout cas.
Quand tu fais un vote, vous avez compris, oui, non, c'est ça?
Plus, il y a quatre réponses possibles à Kahoot. Tu as juste au vidéoprojecteur, tu balances tes questions et tu as après quatre symboles sur l'écran. Et sur ton appareil, tu vas voir si tu vas retrouver ces quatre symboles et tu réponds. Tu as un système de vitesse aussi, de points. C'est vraiment super ludifié et ça met une ambiance dans la classe que j'adore. Moi. Vraiment une ambiance du tonnerre. Les gamins, ils sont à fond.
C'est vraiment un super moyen pour faire de la vérification d'acquis, de connaissances très rapide, puisqu'en plus, voilà, les questions, ça prend 3 secondes à faire. Et puis, bon, c'est que du choix multiple, du coup, hein, par contre.
Oui, bien sûr.
Mais c'est vrai que l'avantage, il y a une petite musique derrière qui est assez entraînante. Et il y a vraiment le côté jeu par rapport à Socrative, finalement, où on donne juste sa réponse. Parce que là, plus vite on répond, plus on marque de points. Il y a un peu ça dans Socrative avec la Space Race, là, mais.
Un petit peu aussi, oui. Et ça marche très bien avec des adultes. Hein. Je l'ai fait fonctionner avec des adultes en formation. Ils se prennent aussi au jeu assez rapidement.
Hein. Et la différence de Socrative, c'est qu'on peut insérer des fichiers vidéo, enfin des liens YouTube, donc poser des questions sur des extraits de vidéos YouTube, par exemple. Donc ça, c'est vraiment très, très fun. Et ça prend 3 secondes à installer, multiplateforme, smartphone, tablette, application ou pas, direct dans le navigateur. Ça marche super bien.
Voilà. Et il nous rajoute aussi qu'il avait adoré Classroom Screen que tu avais... Tu avais présenté, il y en a plusieurs hein, qui n'arrêtent pas de m'en parler avec la screen. Pourtant, moi, je suis pas un grand fan, c'est ça qui est bizarre, mais bon, peut-être que je me tente. Hein.
Par contre, je suis fan de la manière dont tu m'as dit classe Chrome Screen.
C'est un peu l'allemand, ça. C'est
la version allemande.
C'est l'origine munichoise.
Exactement, en fait, de la bière, c'est pour ça, la semaine dernière, tu y étais.
C'est ça.
C'est un outil sympa quand même avec le. Tu peux tirer au sort des élèves et tout ça. Tu as des minuteurs et tout. Moi, je sais que je minute pas mal mes activités en classe. Et,
à toi aussi, t'es fan.
C'était développé.
J'ai du mal à comprendre pourquoi tu n'adhères pas plus que ça, Jeff. Parce que je trouve que c'est quand même vraiment ultra pratique. Quoi.
Ben, je sais pas. Je pourrais pas expliquer. Essayer de me convaincre.
Bon, allez, ça va, on n'a pas d'action. Hein.
Non, ça, c'est sûr.
On attaque?
Allez, vas-y.
C'est moi qui attaque dans l'ordre, ouais? Allez. C'est moi qui attaque. Un petit outil, donc on va commencer notre partie outil. Alors là, pareil, tu vas me dire, je ne sais pas comment ça se prononce, ce service. Ce service s'appelle KIMK. Alors, KIMK, K-E-A-M-K. Je ne sais pas comment tu prononcerais ça, Guillaume.
Ça peut l'air d'être un mot spécialement anglais.
Voilà, je pense, ouais, j'en sais rien. En gros, c'est pour faire des groupes. Je m'en sers souvent. On parlait des groupes tout à l'heure. Alors, ça va un peu plus loin que les groupes. On va pouvoir faire des tirages au sort d'élèves. Moi, je sais que dans une matière, on fait énormément de travail en groupe, où on va pouvoir insérer le nombre de participants et d'élèves dans la classe. Donc, soit un vulgaire tirage au sort par équipe. On veut, par exemple, on va rentrer 10 participants. On va faire des équipes. On va vouloir 4 équipes. Et ben, on va faire générer les équipes et il va nous faire il va faire un groupe classique. Là, rien de particulier. Plein de services le font. Mais ce qui est intéressant, c'est si on veut faire des groupes mixtes. On a ici, on a genre, où on va pouvoir prédéfinir, bien sûr, le genre des participants. Et si on veut des groupes mixtes, il va mixer filles-garçons. Donc ça, c'est pas mal. Et quelque chose que je trouve intéressant, c'est niveau. En fonction du niveau des élèves sur, par exemple, une compétence qu'on veut évaluer, on va pouvoir mettre des niveaux. Et en fonction de ça, ils vont nous faire des groupes complètement hétérogènes avec des niveaux très hauts et des niveaux un peu plus faibles. Donc, il va nous falloir gérer ça automatiquement. Ça, je me prends des fois, moi, la tête pour faire des groupes où vous trouvez des meneurs un petit peu dans les équipes. Donc là, cette fois-ci, avec niveau, les niveaux sont de 4 à 5, on va pouvoir gérer telle ou telle personne qui a 1, etc. Donc, si j'essaie de faire ça en direct pour ceux qui sont en vidéo, hein, on va mettre des prénoms au hasard. Alors là, je le fais à la main, mais on pourrait aussi rentrer directement un copier-coller de toute la classe. Et on va pouvoir, donc, avec niveau, ici, on va pouvoir ici générer les équipes. On veut, par exemple, 5 équipes. Et il va nous faire, normalement, le champ. Ah oui, il nous faut un titre à... Au titre, première équipe, je ne sais plus pourquoi, ça ne marche pas en direct, mais c'est comme ça. Vous devez au moins renseigner le premier participant et la première équipe. Oui, je dois mettre un nom d'équipe, je crois, c'est ça?
Voilà, comment pourrir une base de données, type, il va dire, mais c'est qui tous ces élèves?
Et il nous tire, donc il va nous tirer les groupes 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc je trouve ça assez intéressant pour faire des groupes assez rapides. Je m'embête souvent à faire des groupes. Là, j'ai trouvé l'outil qui est plutôt pas mal pour si on veut faire des groupes un peu plus en automatisant, mais aussi en mettant un peu plus de critères, de genre et de niveau. Voilà, Kimk, K-E-A-M-K.
Alors, pour info, alors c'est rigolo parce que c'est quelque chose auquel j'ai pensé tout à l'heure. C'est la nouvelle version de Mixi, en fait. Si certains ont connu Mixi, c'est exactement ça. Vous tapez mixi.fr et ça vous amène sur ce nouveau portail. Donc, c'est vraiment la même équipe.
C'est le même principe. Hein.
Et ouais. ça fonctionne effectivement très, très bien.
Ouais.
Cool. Moi, je vais enchaîner. Je vais tout de suite enchaîner avec un truc beaucoup moins tech, mais un petit peu quand même. C'est pour ceux qui voient à l'écran, donc c'est ce petit carnet. Donc un carnet de notes hein, qui est noir, comme vous pouvez le voir, et qui existe en deux formats. J'ai le format un peu A4 comme ça, et puis un format un peu paysage qui fait un peu la moitié. Alors ce carnet de notes, qu'est-ce qu'il fait? C'est un carnet sur lequel on peut prendre des notes avec des stylos, les stylos de la gamme Friction. Et uniquement Friction, pourquoi? Parce qu'en fait, ce carnet, il est lavable à l'eau. Utilisable. Donc vous lavez un peu avec un chiffon mouillé, vous effacez, etc. Et puis toutes les notes que vous avez, il y a une app qui s'appelle donc Rocketbook. Hein. Donc le carnet, c'est Everlast, la compagnie, c'est Rocketbook. Vous avez une app qui va scanner toutes les pages, qui va les rendre, donc qui va juste tailler en bon format. En fait, quand on regarde d'un peu plus près une page, regarde si j'ai pas des notes trop confidentielles, mais ça devrait aller. Il y a comme je suis en train d'apprendre l'espagnol, hop, vous allez avoir mon cours d'espagnol. Donc en fait, il va scanner le cadre. Il va scanner le cadre tranquillement. Et puis, vous voyez qu'en bas, il y a des toutes petites icônes auxquelles on peut attribuer des fonctions. Donc, je vais griffonner une note et puis je vais, dans l'app, attribuer une fonction à chaque icône. Donc, par exemple, si je coche ma petite flèche, ça va envoyer par mail ma note au format... ça va m'envoyer ma note sur ma boîte Gmail, depuis ma boîte Gmail. Ça va aussi envoyer sur Google Drive, sur OneNote, etc. Vous pouvez cumuler comme ça les différentes actions. Et vous pouvez choisir de l'envoyer soit au format image, soit au format PDF. Et vous pouvez aussi choisir de l'envoyer par lot ou page par page. Donc,
moi, je suis perdu là. C'est un scan avec un appareil mobile, c'est ça? Tu prends une photo en fait, c'est ça?
Alors, tu prends. Donc, l'app utilise ton appareil photo.
Ouais.
Pas besoin d'appuyer déjà pour prendre la photo, tu passes comme ça et il te cadre directement la page.
D'accord.
Parce qu'il a ses petits repères, etc. De là, il va améliorer un peu ta photo. Contraste, à rendre les blancs bien blancs, etc. Et puis, il va scanner dans le bas de la page une des icônes si tu en as griffonné une. Et okay. Pour chaque icône que tu griffonnes, tu peux associer une action. Vous voyez, si tu les sélectionnes toi-même hein, dans l'application, et tu peux dire, ben voilà, quand je coche cette icône-là, ça m'envoie par mail sur mon adresse Gmail. Celle-là, ça me l'envoie sur mon Google Drive. Celle-là, ça me l'envoie sur OneNote, sur Evernote, sur ce que vous voulez, comme ça. Et après, vous récupérez donc soit le format image, soit le format PDF. Et tu peux aussi sélectionner le fait de t'envoyer page par page ou dans un PDF de plusieurs pages. Donc moi, en cours, je l'utilise aussi quand je note les erreurs de mes apprenants. Et puis, ou même des fois quand je corrige, c'est quand même plus pratique des fois quand j'écoute notamment un enregistrement audio, je prends mes notes comme ça. Et après, je balance le PDF à mes étudiants. Et donc, ça donne un truc, parfois, c'est pas moche. J'en avais ouvert un, je vais partager mon écran très rapidement. Hop.
Et il y a la reconnaissance de caractère aussi ou non?
Alors, non, dans l'app, voilà, ça c'était une de mes apprenantes. J'ai noté donc en vocabulaire, en prononciation, en grammaire, les questions que je lui poserais sur son travail, etc. Donc, je retrouve comme ça mon PDF. Alors, il n'y a pas de reconnaissance de caractère dans l'app. En revanche, si tu l'envoies sur OneNote, par exemple, d'accord, parce que je sais que Seb râlait un peu sur OneNote, il y a de la reconnaissance de caractère. Et donc, là, dans d'accord, ce cas-là, ton fichier passera la reconnaissance de caractère tout à fait normalement. Le scan se fait super vite. Donc, on n'a pas besoin d'appuyer sur l'appareil photo. On passe juste, dès qu'il détecte le cadre vert, hop, il scanne, on tourne la page et on y va comme ça à la volée. On se fait toutes ces pages de notes de la journée et on retrouve tout ça dans le service qu'on souhaite.
Ok.
Il n'y a pas de stockage dans les nuages de la part de l'application. C'est seulement si vous le désirez. Sinon, c'est stocké sur votre téléphone et nulle part ailleurs.
D'accord. Et le revêtement où tu écris, c'est... C'est un revêtement un peu spécial parce que je vois quand même ça fait une image super claire, super.
Alors non, c'est ça fait un papier un tout petit peu plastifié, pas grand chose. Ça t'écris assez bien dessus. C'est pas comme du papier brouillon, c'est un papier un petit peu glacé, mais c'est vraiment la sensation du papier. D'accord. Alors après, t'es obligé d'utiliser les stylos Friction dessus, donc la gamme Friction. C'est une encre un peu gel, si tu veux. Donc, c'est parfait pour prendre des notes. En revanche, les gens qui aiment dessiner, griffonner, tout ça, pour des dessins un peu qualité, c'est pas top du tout. Hein. C'est pas top du tout.
J'avais juste une remarque. Je vais faire le bonnet de base, mais quel avantage? Je veux dire, si tu utilises ça, ça veut dire que tu utilises énormément encore de papier pour écrire en cours. Tu n'utilises pas ton ordinateur en prise de notes, en fait.
Non. Non, déjà parce que quand j'écoute des enregistrements d'apprenants, je dois jongler entre plusieurs fenêtres, entre taper, mettre en pause, lecture, remettre derrière, ouais, ça me fait chier. Ouais. En classe, si je suis en face à face avec un apprenant, prendre des notes sur un ordi portable, c'est toujours un peu plus intimidant que simplement écrire comme ça au papier. Et puis, c'est tout con, mais ça tombe pas en panne de batterie. J'ai pas besoin d'avoir de Wi-Fi. J'ai pas de pépin technique. J'ai mon stylo, j'ai mon papier, ça marche, quoi.
Ouais, et puis on peut aussi aimer et bien écrire. Enfin, je veux dire, moi j'aime bien écrire aussi.
C'est un autre point aussi. Tu vois, j'ai relancé quelques activités que je dois créer pour le site Agit, enfin, j'ai envie de créer notamment des jeux pour le français, tu vois. Je m'aperçois que j'avais tendance avec Word et tout ça à travailler tout de suite ma version définitive, à effacer, à revenir en arrière, etc. Mais là, le fait de prendre son temps, de faire un plan, faire des schémas et de faire une page par truc, ça me permet de m'organiser différemment et c'est assez plaisant. Et finalement, je passe moins de temps sur la version définitive quand je la crée, qui est plus que vraiment l'exécution, quoi, parce que tout est prêt en note avant, quoi.
Tout à fait.
De travailler que je retrouve, que j'avais avant, que j'avais perdu et que je retrouve, je trouve que c'est un côté sympathique.
Et on trouve ça où, à quel prix à peu près?
Alors, c'est une trentaine de dollars, entre 30 et 40 dollars. Tu reçois ton carnet avec un stylo de base. Et pour l'instant, je crois qu'ils sont toujours en espèce de crowdfunding. Donc, en gros, quand tu le commandes, tu as un mois avant que ta commande soit traitée et puis tu le reçois. Enfin, c'était comme ça. Moi, je l'utilise depuis juin à peu près, tu vois.
D'accord.
Et donc, c'était comme ça à l'époque. Et là, je crois que c'est toujours un peu le même truc. Ils ont plein de formats de notes. Ils en ont des qui se passent au micro-ondes pour s'effacer. Et dans ce cas-là, elles se réutilisent 5 fois. Et là, c'est la dernière version qui s'efface un peu à l'eau. Et dans les points négatifs, pas gommé, les stylos friction, c'est ces stylos que tu peux gommer quand tu écris, tu sais. Tu peux pas gommer dessus, tu peux pas utiliser de lingette non plus. Donc des fois, bah ouais, moi je sais que je fais le ménage dans mon carnet de notes une fois dans la semaine, parce que bah voilà, il faut aller mouiller ton chiffon, il faut avoir un autre chiffon sec pour éponger la page, il faut attendre une minute que ça sèche, etc. Tu fais plus de ratures que t'effaces, quoi.
Parce que t'as combien de pages?
Ouais, j'en ai.
C'est vrai que c'est quelque chose que je cherche, moi, la prise de notes ultime, tu vois. Moi, en ce moment, j'essaye. Ouais, voilà. J'essaye, moi, de. En ce moment, je suis plutôt avec mon stylet sur ma tablette, mais c'est pas parfait, donc ça m'intéresse, en tout cas.
Ouais. Ouais, bah ça coûte moins cher qu'une tablette.
Ouais. Non, puis j'essaie de trouver vraiment, parce que les notes sur papier, moi je sais que je les perds et jamais je les relis. La tablette, j'avais trouvé ça, comme quoi j'ai toujours mes notes sur moi. Là, je me dis.
C'est une mix, c'est-à-dire que tu le retrouves après si tu es un peu organisé. Moi, je suis plus organisé dans mes fichiers que dans mes papiers.
Moi aussi. Hein. Donc,
voilà.
C'est bon. Très super.
Une fois n'est pas coutume, je vais faire une chronique littéraire. Donc, récemment, dans mes achats, je suis tombé sur mon atelier Scratch. Oh là là, ça fait bien comme à la télé. Je le montre. Bon, pour ceux qui écoutent ça en podcast, ça sert à rien ce que je dis, mais bah, c'est pas grave. Donc, en fait, c'est chez Glénat. Glénat a sorti une collection qui s'appelle Ton atelier Scratch. Bon, quand j'ai vu ça, au milieu des 15 000 productions maintenant et publications qu'il y a sur Scratch, c'est la fête, c'est la foire. Donc, j'ai regardé ça et la collection, c'est le leitmotiv, c'est « Crée ton jeu vidéo et apprends à programmer ». Ouais, bon, ben là, je me suis dit, c'est bon, encore un truc à la noix, pas top, pas top. Alors, au début, je voulais mettre ça dans « Trucs et astuces » parce que, premier point positif de la collection, on a accès, même sans avoir acheté les bouquins, pour peu qu'on aille sur tonatelierscratch.nathan.fr, on a accès à tous les sprites, tous les lutins, pardon, tous les lutins, toutes les musiques, tous les fonds qui ont été faits pour la collection. Et on peut les télécharger sans besoin de s'inscrire, sans tous les trucs un peu lourds qu'il y a, parce que bon, je sais pas, en tant que prof, à chaque fois qu'on a besoin d'une ressource qui va avec un de nos bouquins, on est obligé de faire un formulaire, de s'inscrire. Je suis inscrit, moi, par exemple, à des tas de sites où je ne vais plus parce que j'avais besoin juste d'y aller une fois. Donc, j'en ai pris deux pour les essayer. Il y en a un qui s'appelle La révolte des robots. C'est un petit jeu où on dirige un robot qui doit s'échapper d'une usine. Et un deuxième qui est un jeu de tir à FPS, on va dire. Bon, pas en 3D, attention. Un truc qui s'appelle Panic à Code City où voilà, c'est ambiance Far West et où on dessoude du vilain brigand, etc. Alors, je les ai essayés, j'ai fait. Moi, je me suis beaucoup amusé à programmer ces petits jeux, franchement. Et très bon point à mon goût, c'est que c'est vraiment très pédagogique. C'est-à-dire que le gamin peut prendre ça en termes de niveau tout seul au collège, ils font. Avec les miens qui sont au CE2, du CE2 au CM2, on va y aller tranquille. Mais franchement, au collège, ça, je pense qu'ils vont y aller tranquille, qu'ils peuvent y aller tout seul sans problème. C'est très très bien fichu. Alors, le seul petit truc où ils vont un peu vite, c'est au début pour présenter Scratch, parce qu'en gros, c'est sur 3 pages. Sur 3 pages, et il y a une petite vidéo dans ce qu'on peut télécharger, du style, bon alors, c'est quoi le langage informatique? Coder, qu'est-ce que ça veut dire? Où trouver les ressources pour coder mon jeu? Bon, bah, ok. Vas-y, débrouille-toi maintenant. Après, c'est très très progressif. Ça explique non seulement comment coder, mais aussi comment on fait un jeu. C'est-à-dire, on va penser à l'écran titre. On va penser, on va commencer, par exemple, moi j'aimais bien celui avec où on tire sur les méchants. Là. Panic à Code City, on va commencer par faire le jour, le placement des gentils sur qui il ne faut pas tirer. Ensuite, des méchants sur qui il ne faut pas tirer en utilisant ce qu'on a déjà fait pour les gentils. Ensuite, on va reprendre ça et on va dire, mais si on mettait un score, donc on met des variables, Ensuite, on va continuer et à chaque fois, ben, on rajoute quelque chose de nouveau et on complexifie un peu le jeu. C'est vraiment très très sympa. Par exemple, au bout d'un moment, ils disent « Bon, et si on passait à la nuit ?» Alors là, tac, au bout d'un certain score, on met une condition pour que ça passe, le décor change, passe à la nuit, on réinvestit ce qu'on a vu précédemment, etc. Super. Moi, perso, je sais que je vais prendre la révolte des robots pour le bosser avec les miens, parce qu'il est plus simple dans les trucs. Comme dirais-je, dans la programmation, et surtout parce qu'il y a toute une partie à la fin, et alors là, je me suis dit, là, il y a quand même, c'est une vraie pédagogie derrière, quand même. Il y a une belle réflexion, il y a personnalise ton jeu vidéo. Et à partir de là, ça va être là qu'on va pouvoir faire, alors comment le rendre plus difficile ? Alors, on va voir, on peut rajouter, comment le rendre plus joli avec des effets sonores ? Comment le rendre plus difficile ? On va mettre du temps, on va mettre plus de vitesse, personnalise ton robot, etc. Voilà, donc il y a à chaque fois un retour sur ce qu'on a fait. Ah, on a fait un bloc, tu vois ce bloc-là, maintenant on va le compléter, ça va nous faire ça, etc., 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 etc. Bon, franchement, c'est super. Moi, j'ai téléchargé le reste. Il y a 4 livres dans la collection. Alors, on va aller les voir là en vidéo. Ça va être assez rapide. Donc, il y a 4 livres dans la collection, si je ne m'abuse. Tac, tac, tac. Voilà. Toc, voilà. Alors, il y a 5 livres, oui, parce que voilà, il y en avait un nouveau que je n'ai pas vu encore. Le premier, qui doit être le premier de la collection, c'était pour faire des 4 mini-jeux. Et ensuite, c'est un livre, un jeu.
D'accord.
Voilà. Bon, après, il y en a un, donc c'est un shoot. Il y en a un, c'est un truc d'adresse. Il y en a un, c'est un jeu d'énigmes. Donc, bof, c'était pas exceptionnel. Et il y en a un, apparemment, c'est, ça s'appelle La Tour Diabolique. Je n'ai pas encore essayé, mais voilà. Et donc, le côté... Voilà, là, je suis par exemple sur la page de chez Nathan. Si je cherche un peu, ils vont nous dire « Tu possèdes un livre de la collection. » Pac, choisis ton livre. Alors, tu vas avoir besoin d'images et de sons. Ben, clique sur le livre de ton choix. Et franchement, les graphismes sont très sympas. Là, les robots ils sont très, 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 très mignons. Et les persos là, de Code City, là, ils sont très sympas aussi. Donc franchement, mettre ça à disposition, faire un bon bouquin qui est bien construit, parce que c'est pas... Moi, je me rappelle quand je faisais de la programmation il y a fort, fort longtemps. C'était sur un Amstrad. Pour les gens de moins de 20 ans, ne peuvent pas connaître. Là, c'était sur un Amstrad et tout ce que j'avais, en gros, c'était des gros bouquins avec des lignes entières de code où on expliquait que dalle. Voilà. Ouais. C'était super pour ne pas comprendre. Voilà. J'étais en CM2, je ne comprenais pas grand-chose. Là, par contre, on a vraiment un truc qui est progressif. Moi, ça m'a vraiment motivé pour reprendre ça. Et je pense que ça va motiver mes élèves pour s'y mettre.
D'accord. Et en prix, si on parle prix ?
Oula, alors c'est très très onéreux. Attention, mesdames et messieurs, je ne vous dis pas 10, je ne vous dis pas 8, mais je vous dis 6,95€.
Putain, 6€, c'est pas cher, c'est hallucinant.
Oh, 6,95€, tiens, un petit bouquin. Bon, il est pas super épais. Il fait combien ? Il fait 50 pages. 50 pages, elles sont bien remplies. C'est.
Ah, c'est pas mal, hein. D'accord.
Ouais, c'est bien. Franchement, non, c'est bien et ça les vaut.
Ça les vaut largement. Ah, à ce prix-là, ouais. Donc tu disais cycle 2, fin de cycle 2, de cycle 3 ?
Fin de cycle 3. Ouais, fin de cycle 2, c'est vrai, pardon, excuse-moi. Ah, oui. Fin de cycle 2 pour le CE2 et cycle 3. Alors arriver au collège, c'est facile.
D'accord. Ok. Bon, intéressant. J'irai jeter un coup d'œil en tout cas.
Ouais, écoute, ne serait-ce que pour récupérer les images, quoi. Les images, les robots, si tu veux faire des robots. Après, comme je disais, voilà, après, je peux prendre les images de mes robots et aller me faire un tir de robot, quoi.
C'est oui, pourquoi pas. D'accord. Et ça laisse place aussi un petit peu à la créativité des élèves, à ce que tu disais un peu aussi.
Mais à partir du moment où tu peux personnaliser ton truc, moi, je sais que je vais partir là-dessus. Je vais leur proposer de finir chacun leur jeu et leur dire bon, maintenant, vos jeux, ils se ressemblent tous. Ils se ressemblent tous, vous avez tous suivi la même chose, on est tous arrivés, vous avez franchi les différentes étapes qui vous posaient un peu problème. Maintenant, comment on fait pour que les jeux soient différents ? Mmh. Alors là, à partir de là, je peux faire toute l'année avec les robots, c'est pas un souci.
Ok, très bien.
Voilà.
Et ben, donc c'est à moi. Moi, c'est un truc assez rapide. Je voulais vous parler de vidéos libres de droit. Chercher aussi pour faire, je travaillais sur les énergies là, avec les élèves, je cherchais quelques petites vidéos de de présentation, etc. Et je voulais faire un petit montage de plein de bouts de vidéos. J'ai dit, tiens, on va aller chercher quand même, c'est ce que ça existe, des vidéos libre droit. Je tombais sur un article assez bon sur un site que je connaissais pas du tout qui s'appelle pme-web.com, qui s'appelle les meilleurs outils du web et qui ont fait un article qui s'appelle les 5 meilleurs sites de vidéos libre droit et gratuites. Dans ces 5, j'en ai surtout testé un. Alors, il y en a plusieurs. Il y a Vidizzy, V-I-D-E-E-Z-Y, Pixel Video, X-Stock Video, Vidsplay. Et moi, j'ai surtout essayé le premier qui s'appelait Videvo. Alors, Videvo, franchement, c'est plutôt des vidéos. Alors, c'est des vidéos de courte durée. Hein, c'est des vidéos de quelques secondes, 20 secondes, etc. Alors, c'est en anglais. Il suffit de chercher, ici, il suffit de chercher, par exemple, énergie ici dans le moteur de recherche. Et on va avoir quelques vidéos parlant d'énergie. Si on regarde une éolienne ici, c'est des vidéos qui vont durer. Alors, celle-ci, par exemple, ici, va durer 15 secondes. Mais on voit que, moi, la qualité, j'ai été stupéfait pour des vidéos de libre droit. Une qualité aussi bonne. Hein, alors, c'est du 1080p. Hein. Je ne sais pas si c'est le 4K, mais j'en sais rien. Mais la qualité est vraiment très très bonne. Donc on va pouvoir. Alors il y a quelques-unes aussi qui sont payantes, mais c'est encore
parasite. Le beau filigrame.
Voilà, de Shutterstock qui est assez connu aussi. Mais sinon, voilà, il y en a des certaines gratuites. Donc vraiment les qualités excellentes. C'est vraiment une mine énorme de vidéos libre droit. Et pour faire des petits montages avec un petit commentaire audio derrière qu'on pourrait faire, je me suis servi moi donc ces vidéos d'éoliennes, ces vidéos de panneaux solaires, etc. pour faire une petite vidéo derrière. Donc voilà, et ça peut être très sympa aussi, même pour une création pure et dure par des élèves de montage vidéo, on pourrait leur proposer toute une série de vidéos et d'essayer de créer une histoire à partir de ces vidéos libre droit.
Voilà, vidéo. Vas-y, excuse-moi. Non, j'allais te demander justement, puisque avec tes élèves, tu les ferais monter sur quoi ?
Oh ben, si tu as le montage vidéo maker de Windows 7 ou 10, ça suffirait largement, quoi. Voilà. Je sais que le collègue d'art plastique monte là-dessus, hein, au départ.
D'accord,
ok. Prendre le cut, les transitions, tu vois.
Ouais, c'est pas faux, c'est la base.
Voilà. Donc voilà, c'est un site, c'était un univers que je connaissais pas beaucoup, les vidéos libre droit. On connaissait beaucoup plus l'audio libre droit, qu'on utilise des fois de temps en temps. Mmh. Et franchement, il y a des vidéos vraiment de qualité, quoi. Vraiment de qualité. Donc voilà, Videvo, et je vous mettrai le lien de l'article que je vous disais sur pme-web.com là, pour aller voir le reste des services de vidéos de stockage de vidéos libre droit. Voilà, c'était un petit outil.
Ouais, bien pratique.
Voilà.
Vous pouvez nous retrouver sur le site eTeachers.fr avec tous les épisodes précédents qui sont disponibles sur toutes les applis de podcast également. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Google+. Et pour nous contacter, passez par Twitter, Jeff@Jeff8342, Guillaume@WillO-Teach, T-E-A-C-H, Sébastien@TheTrueSeb, et moi-même @Stuteur, S-T-U-T-U-R.
Au revoir.